Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir et bienvenue dans Côté Club, 22h, 23h, le rendez-vous quotidien de toute la scène française, le magazine de celles et ceux qui font l'actualité musicale. Ça se passe au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et ce soir, nos invités sont un grand blond, un petit brun, Vladimir Cosma, Albin de la Simone. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pas si petit que ça, Albin, je sais. Vladimir Cosma, l'homme aux centaines de bandes originales de films, retrouve le chemin des salles pour une série de concerts symphoniques. La Boum, Diva, Le Père Noël est une ordure. L'As des As, c'est vous. À vos côtés, Albin de la Simone, qui signe son premier album instrumental. Un album pour faire du bien quand les mots vous manquent. Le chanteur que vous êtes se tait, mais tout finit par une happy end. C'est le titre de ce nouvel album qui s'ouvre sur le soleil et qui s'achève en Extremadura. Marion ?
C'est mercredi, c'est le jour des nouveautés nouvelles. On va découvrir les sons de Ed Barrow, de Nicolas Michaud et de Mélan vers 22h30.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre avec le tube annoncé de Juliette Armanet. Vous connaissez Juliette Armanet, Vladimir
oui,
Cosma ?
Bien sûr, je la connais.
Très bien. Juliette Armanet est de retour avec un nouvel album, Brûler le feu, qu'on attend avec une belle impatience. Pour l'heure, elle nous annonce le dernier jour du disco. Vous l'avez déjà entendu, Albin de la Simone ?
Évidemment.
On n'y échappe pas.
Exactement.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil. S'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau. À rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo. Et te dire c'est la fin.
Vladimir Cosma, Albin de la Simone, la rencontre au sommet. Est-ce que c'est la première fois d'ailleurs ce soir?
Oui, c'est la première fois. Oui.
Très bien. Vladimir Cosma, auteur de partitions en images, des centaines de bandes originales de films populaires, beaucoup de comédies, La Boum, Le Grand Blanc avec une chaussure noire, L'aile ou la cuisse, j'en passe. Quand vous pensez Vladimir Cosma, quelle bande originale vous vient à l'esprit, vous, Albin de la Simone?
Plein, mais je réécoute régulièrement le Rabbi Jacob. Pas forcément que pour les morceaux principaux, mais pour il y a des thèmes. C'est souvent les morceaux aussi qu'on connaît moins, mais qui servent plus à la narration du film. Il y a des morceaux magnifiques, je trouve, et j'aime beaucoup l'interprétation, le son de ce disque aussi. Mais il y en a plein,
oui,
vraiment beaucoup.
Dans le Rabbi Jacob, c'est la première fois qu'on utilisait peut-être en France les synthétiseurs,
ouais,
dans toute la scène de chewing-gum et même dans le thème principal du film.
Oui, le thème est doublé.
Est par... doublé par des synthés, ouais, les trompettes, sans doute.
Voilà. Ils sont très tranchants. Ouais.
Voilà. Mais je l'ai fait parce que, pas dans une recherche de mode, d'être à la mode, pas du tout ça. C'était parce que c'était une couleur qui m'intéressait, qui apparaissait comme le piano électrique, comme les guitares électriques. On se sert parce que ça me semblait que ça entre dans la lutherie nouvelle. Et voilà.
Donc voilà ce que vous écoutez de temps en temps chez vous, Albin de Simone.
Et d'autres. Mais ouais, les musiques de Vladimir Cosma, en plus d'être partie de mon enfance, font partie de mon quotidien. Ouais.
Albin de la Simone, je vous le présente, auteur, compositeur, interprète, dans une tradition, on va dire, Alain Souchon, Yves Simon de la chanson française. Cinq albums au compteur, le sixième est sorti la semaine dernière, intégralement instrumental. Pas étonnant quand on a commencé en fait par le jazz, parce que vous venez du jazz au départ, Albin de la Simone.
Étonnant dans le sens où quand on vient du jazz, faire de la chanson, c'est vraiment tourner une page, mais refaire de l'instrumental, c'était vachement compliqué de faire de l'instrumental sans faire du jazz, sans aller faire des solos, sans avoir un propos de jazz. J'ai mis 20 ans, ça fait 20 ans que je ne joue plus de jazz, et j'ai mis 20 ans à revenir à la musique instrumentale sans passer par la chanson.
Sans passer par le jazz.
Et pour ça, je remercie le Covid.
Ah oui, on va parler de ça justement. On va parler de ça. Vous aussi, vous avez commencé plus ou moins par le jazz.
Oui, et je me suis séparé un peu parce que c'est une sorte de facilité pour un musicien, les accords de jazz, utiliser des accords avec des septièmes, avec les accords spécifiques américains. Je voulais pas que ma musique soit américaine, ou soit jazz, ou soit... je voudrais trouver une forme de personnalité dans cette musique, et c'est pour ça que je fais du jazz de temps en temps. Il m'arrive même récemment. Ma musique est pleine d'influences de musique de jazz, de musique de folklore roumaine, française, tout ce que vous voulez. Mais elle n'est pas spécifiquement jazz, parce qu'il y a aux autres de faire ça.
Si vous avez commencé par le jazz tous les deux, c'est en raison de, je sais pas, un atabisme familial de votre côté, Albin de la Simone, père clarinettiste, donc j'imagine jazz.
Oui, père clarinettiste de jazz Nouvelle-Orléans. Donc quand j'étais petit, il me mettait au piano, ça lui faisait un accompagnateur gratos, et il m'apprenait les accords. Et en fait, je le maudissais, mais il m'a tout appris.
De votre côté aussi, père pianiste, chef d'orchestre.
Mon père, oui, moi j'ai un passé différent parce que je suis né dans la Roumanie communiste et le jazz était interdit. Et mon père était directeur de l'Orchestre National de Musique de Variété de Roumaine, parce qu'on pouvait pas dire de jazz, mais dans le cadre de cet orchestre, on faisait beaucoup de jazz, il y avait des merveilleux musiciens qui adorait le jazz. Et si vous voulez, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'approcher et me séparer du jazz, puisque j'aime faire bien du jazz, j'aime bien faire du tango, j'aime bien faire tout ça, mais pas à l'identique, pas ce qui est fait par les Argentins, par les Américains, par les Noirs, par les Blancs. J'aime trouver une forme d'expression qui est un peu spécifique.
La vôtre. Dans cette Roumanie communiste, il y avait d'autres types de musique qui étaient interdits?
Oui, il y a même la musique française, vous voyez, Ravel, Debussy, c'est considéré comme la musique décadente un peu.
Ah oui.
Oui. Et donc, j'étais même moi-même jugé dans une séance importante des étudiants et tout ça pendant les événements de Hongrie où on avait peur que les étudiants en Roumanie ne fassent pas pareil. Et j'étais jugé comme une sorte d'élément un peu décadent qui subit les influences de la musique française ou américaine ou des courants. Voilà, donc c'était une forme d'interdiction qui existait.
Vous êtes bien rattrapé. Vladimir Cosma, beaucoup samplé depuis quelques années. Polo et Pan dernièrement, Stomek Bugsy bien entendu. MC Solar.
J'entends du yiddish devant le comptoir nord, mais je vais rester sur place, j'ai oublié mon passeport. Bouge encore ou tombe à dit, c'est Bettine. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge encore ou tombe à dit, c'est permis. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge encore ou tombe à dit, c'est Bettine. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin.
Vous parliez sur ce titre justement de MC Solar, Vladimir Cosma.
Oui, oui. Je dis qu'on a fait ça ensemble, l'orchestre c'est moi qui l'ai fait, un arrangement comme un autre.
Ça marche, hein?
Ça marche hyper bien, oui.
Alors, sampler, mais dernièrement, il y a même un acteur de la scène électro, un compositeur, producteur, qui vous rend un hommage appuyé. Je ne sais pas si vous connaissez ce son qui a traîné vraiment partout, comme on m'a dit au bureau, alors même moi que je ne le connaissais pas. Vladimir Cosma, vous connaissez le compositeur qui a écrit cette partition ?
Non, non, pas du tout. Pas du
Et vous, Albin de la Simone ?
J'ai bien peur de connaître son nom, en tout cas.
Oui.
Mais je vous laisse le prononcer.
Bah c'est Vladimir Cauchemar.
Ah oui.
On vous a parlé de ça, j'imagine.
J'ai même vu l'autre jour. Oui,
vous l'avez rencontré ?
Non, je ne l'ai pas rencontré. Bon. Je subis ses décisions et je le laisse faire, quoi.
Il a une tête de squelette, c'est
exactement.
Ça
exactement.
Il est maxi. Oui, j'ai vu qu'il est yougoslave, il est
oui,
croate,
c'est ça.
Je sais pas quoi.
Ça, c'est la légende urbaine. Qu'il dit. Ouais. Personne n'est véritablement sûr de son identité. Tout de suite, on va se faire un film, enfin plusieurs avec vous, Vladimir Cosma. Tout de suite, c'est L'As des As, c'est le titre qui ouvre d'ailleurs vos musiques de film et qui ouvrait aussi vos concerts symphoniques. Vous connaissiez Albin de la Simone, je vous ai vu déjà faire tous les gestes, voilà.
Non, mais d'autant plus que je l'ai revu il y a 2 semaines avec ma fille et que j'ai la musique encore en tête depuis 2 semaines.
Ouais. Alors la musique originale, c'est celle-ci. Jean-Paul Belmondo qui nous a quitté le 6 septembre dernier. Vous l'aviez rencontré à l'occasion de ce film, Gérard Houri?
Bien sûr, je l'ai rencontré à l'occasion du film de Houri. Je l'ai rencontré à l'occasion de L'Animal, film de Claude Zidi, avec Raquel Welch, entre autres. Et je l'ai rencontré, et bien sûr, c'était...
Quand vous composiez Les Esas, est-ce que vous composiez aussi sur la silhouette, la démarche
Absolument.
De Jean-Paul Belmondo?
Absolument, j'écrivais pour lui. Pour moi, c'est sa musique plus que la musique du film. En général, le sujet, tout ça, ça va. Mais c'est une musique. Si c'est un autre acteur qui aurait joué le rôle qu'il incarnait là, je n'aurais certainement pas fait ce thème-là. Et c'est valable pour des films que j'ai fait pour De Funès, Le Rabbi Jacob ou pour Pierre Richard. J'écris la musique pour les acteurs quand sont des personnalités qui ont une telle originalité, une telle présence. Ils ne jouent pas un rôle dans les films, ils jouent eux-mêmes.
Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire, par exemple, pour Louis de Funès ?
Mais pour moi, écrire pour Louis de Funès, c'est d'abord écrire une musique forte, binaire, de rythme binaire. C'est-à-dire que c'est pas... Monsieur Simone sait très bien ce que c'est binaire. Il n'y a pas la grâce de la musique ternaire, du jazzy, de la comédie musicale à l'américaine. C'est une musique qui est plus forte, qui a plus musclée.
Tendue et, presque.
Oui,
tendue.
Voilà, tendue un peu. Et ça me semble... C'est pour ça que je dis que j'écris pour lui... pour De Funès, complètement différemment que si j'avais écrit la même musique sur une scène similaire de poursuite ou de je sais pas quoi, pour Pierre Richard, où la musique est plus souple, plus à l'américaine, plus...
Bah justement, on va écouter, parce que vous revenez donc avec une série de concerts symphoniques pour un répertoire populaire, beaucoup de comédies, et notamment, bien sûr, au centre, et bien des partitions pour Pierre Richard. Et on entend même les gens qui applaudissent. Ça se passe toujours comme ça sur cette partition dans les concerts.
Ils sont obligés. Ils sont obligés.
C'est irrésistible.
On les vire si.
Là, ça, c'est votre côté communiste.
Oui.
Dans ce morceau, par exemple, dans la version d'origine, il y a quelque chose sur lequel Monsieur Cosma est particulièrement fort, je trouve, c'est le choix des instruments pour interpréter les mélodies. C'est une question hyper épineuse pour quand on écrit de la musique instrumentale, par quoi on va faire jouer la mélodie. Et là, c'est cymbalum qui fait un accompagnement et la flûte de Pan. La flûte de Pan pour jouer pour un film qui veut être un genre de parodie de James Bond. Qui penserait à choisir de la flûte de Pan? Est-ce que ça s'est passé facilement?
Quand vous avez
proposé de la flûte de Pan, ça devait être super bizarre.
Non, c'était bizarre et très difficile puisque... Ah oui. Au début, dans le scénario écrit par Francis Weber, c'était marqué à la manière de James Bond, pastiche de James Bond sur l'arrivée de Pierre Richard à l'aéroport, etc. C'était l'espion qu'on voulait assimiler à James Bond. Et moi, je déteste les pastiches, les choses, les imitations, à la manière d'eux. Donc je cherchais une idée originale qui peut le... Et j'ai pensé qu'un espion, finalement, n'est pas un espion qui est d'Angleterre ou d'Amérique. Ça peut être un espion qui vient du froid. Vous savez, on dit
l'espion qui vient du froid. Ouais.
Voilà. Donc, d'où l'idée d'une musique un peu d'Europe centrale que je connais puisque j'y viens. Et l'idée du cymbalum, qui est un instrument qui n'a pas été utilisé en France... presque jamais en important, et la flûte de Pan aussi qu'on connaissait pas. On connaissait la flûte de Pan sud-américaine, tout ça, mais pas la flûte de Pan roumaine.
On savait pas que ça pouvait être virtuose comme ça.
Ouais. Ah ben on écoute ce que ça donne. Arrête plus. Pendant la musique, vous vouliez dire quelque chose.
Oui, je disais que
ce
qui est une des choses qui est très importante pour moi dans cette musique, c'est qu'il y a une superposition de binaire et de ternaire, comme dans certaines œuvres de Brahms, où il joue des triolets, des trucs sur un fond binaire. Alors, l'accompagnement qui est joué par le cymbalum, fait des triolets, et la musique est complètement binaire. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quand il y a des musiciens qui la jouent jazzy. Il faut que ça soit... Et le ternaire, c'est les autres. Alors, ça donne une originalité... que le public peut-être ne ressent pas à cause de ça, mais moi je le sais, si vous voulez, ça vient de ce balancement rythmique inhabituel.
Et ça correspond justement à la démarche aussi de Pierre Richard. Une chaussure d'un côté et une chaussure de l'autre.
Voilà.
C'est comme ça que vous aviez travaillé. Voilà. Il y a une question aussi que je me pose, c'est que vous avez écrit beaucoup de musique pour des comédies, mais pas véritablement pour des drames, et pour autant, les musiques de comédie, vous les avez travaillées la plupart du temps sur un mode mineur.
Voilà. c'est, je voulais donner un arrière-plan autre que comique. Il n'y a pas de musique comique, ça n'existe pas. Si vous êtes condamné à faire de la musique de film, de comédie, il faut surtout pas, à mon avis, essayer de faire de la musique comique. Il faut faire un arrière-plan. Alors mes musiques ont un arrière-plan sentimental qui est dramatique, ce que vous voulez, mais c'est jamais comique, c'est jamais un pastiche de quelque chose comique, etc.
Vous êtes senti condamné à la musique de film comique ?
Non, j'ai été un peu, au début, comme j'ai démarré avec Yves Robert, et après j'ai été repris par les plus grands cinéastes français de comédie, Gérard Loury, Francis Weber et d'autres, j'étais pendant quelques années catalogué comme le spécialiste de la musique de comédie, jusqu'au moment où j'ai commencé à être demandé pour d'autres musiques. Ça a commencé surtout avec Diva, avec, et à la télévision, avec des séries qui sortaient complètement de ce registre-là, qui sont beaucoup plus faciles à faire, parce qu'il n'y a rien de plus difficile qu'écrire de la musique pour de la comédie. D'ailleurs, si vous regardez dans le répertoire musical universel, la musique qui fasse rire, ça n'existe pas. Ou alors, c'est des pastiches d'autres choses.
Vous êtes d'accord avec cela, Albin Simone ?
Oui, complètement. Ouais. C'est... Ou alors, oui, c'est dans la moquerie de la musique elle-même.
C'est ça,
il y a le pastiche. Il y a Vincent Malone, le roi de la trompette, ça me fait pleurer de rire, mais parce qu'il joue hyper mal de la trompette volontairement. Mais une musique qui fasse rire, alors que la musique qui fait pleurer, ça existe. Une musique qui fait rire, ouais.
Vous avez travaillé avec de grands musiciens, avec Chet Baker, avec Stéphane Grappelli. Quels sont les musiciens ou les musiciennes qui ont pu véritablement vous marquer et avoir même une incidence sur votre façon d'écrire de la musique, Vladimir Cosma ?
Écoutez, j'ai écrit de la musique pour chaque musicien différemment. Si j'écris pour Grappelli, c'est pas la même chose que j'écris quand j'écris pour Jean-Luc Ponty. J'écris beaucoup pour Jean-Luc Ponty parce qu'on parle de violon et... ou pour Didier Lecoud et tout ça, mais c'est pas du tout de la même dans la même façon que pour Grappelli. Et bon, Chet Baker, c'est un fait unique, c'est un personnage et un musicien unique pour lequel aussi j'ai eu des rapports avec lui, j'ai parlé tout ça. Quand j'ai écrit quelque chose, c'était pour lui, c'était pas pour quelqu'un d'autre. Même si aujourd'hui ces musiques-là sont jouées par d'autres
hein,
mais avec une couleur quand même différente.
Ces concerts symphoniques, vous les avez joués en France, en Russie, en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Suisse, en Belgique. Quels sont les morceaux les plus populaires dans ces pays ? Par exemple, en Roumanie, alors même qu'ils ne connaissent pas toute notre filmographie, quels sont les morceaux qui ressortent le plus ?
Curieusement, en Roumanie, qui est mon pays d'origine, ce n'est pas là que mes musiques sont le plus connues. Elles sont connues, mais enfin, Le Grand Blond, Le Rabbi Jacob, tous ces musiques-là. Mais j'étais très étonné, par exemple, d'être en Russie, parce qu'en Russie, l'hymne national presque russe, c'est la musique du jouet. Vous savez, il y a un article qui est sorti dans l'Izvestia, un référendum, qui demande au public quelles sont les musiques préférées du public russe. Et la réponse en numéro 1, c'est la 40e symphonie de Mozart. En numéro 2, c'est la musique du jouet. Et en numéro 3, c'est la 5e de Beethoven.
C'est bien.
Alors,
bien entouré.
Oui, bien entouré, mais j'étais quand même un peu déçu parce que deuxième.
Ah, c'est bien entendu.
Ouais.
Une autre question. Pourquoi vous n'êtes jamais parti travailler aux États-Unis comme Michel Legrand, Maurice Jarre, Georges Delerue, Alexandre Desplat ? Pourquoi Vladimir Cosma ne s'est jamais installé à Hollywood ?
Parce que je prends pas l'avion. Ça fait 50 ans ou 60 ans que je ne prends pas l'avion. Et j'ai peur. Vous savez, j'ai très peureux de nature. Donc, au début, quand je suis arrivé à l'Occident, pendant 3-4 ans, je ne faisais que ça, des voyages avec une peur énorme, mais j'avais besoin de vivre, de manger. Donc c'était purement alimentaire. Mais quand j'ai pu m'en sortir, je me suis payé le luxe de dire je prendrai plus...
Jamais l'avion.
Jamais l'avion.
Wow.
Sauf s'il y a une guerre ou s'il y a quelque chose d'épouvantable. Mais pour l'instant, le Covid ne m'a pas fait... prendre l'avion parce que je sais pas où aller.
De toute façon, alors en plus, il était interdit de pouvoir de le prendre.
Oui.
Vous avez peur par nature ?
Oui, oui. Il y a de quoi. Donc il faut être inconscient. Bien sûr.
Mais cette peur, elle remonte à quand ?
Ça remonte à ma naissance, quoi. Depuis que je suis né, je n'arrête pas d'avoir peur, quoi.
Alors, vous restez avec.
Mais je me bats, quoi. C'est-à-dire que j'ai peur, mais j'affronte l'angoisse.
Mais vous vous en sortez bien. Mmh. Vladimir Cosma, vous restez avec nous. Marion a plein de choses à nous faire découvrir dans quelques instants. Albin de la Simone prépare un happy end. Le temps d'écouter Pomme, victoire de la musique cette année. Albin, c'est vous qui avez réalisé cet album, Les Failles. Une réussite totale, d'ailleurs, pour une artiste en phase avec les sujets de société, qu'elle aborde frontalement et très simplement. Elle est comment en studio, Pomme?
Elle est bonne, elle est forte, elle chante très très bien. Ouais. Je peux vous raconter un exemple. Et c'est pas, c'est-à-dire quand on enregistre un album, on enregistre souvent les instruments d'abord et on refait les voix à la fin. Pomme, Claire, elle s'appelle Claire. Ouais. Elle était avec nous en studio, on jouait tout ensemble. Moi, je dirigeais les séances, mais je jouais de la basse en même temps. Et Claire était dans une cabine, elle jouait la guitare et elle chantait en même temps. Et donc, quand on joue la guitare et qu'on chante en même temps, il y a de la guitare dans le micro-chant et du chant dans le micro de la guitare. Donc on peut pas les dissocier. Donc on était obligé de garder sa guitare, son chant et les batteries et tout ce qu'on faisait en même temps. Et quand l'orchestre était prêt, quand on avait à la 7e prise, par exemple, la bonne prise, la prise de Pomme, de Claire, devait être la bonne aussi.
Bien sûr.
Et c'était le cas. Et toutes les prises étaient pareilles, étaient bonnes. On n'a jamais dû faire le moindre montage de voix. Et ça, j'avais jamais, jamais vu ça. C'est-à-dire que voilà, c'est naturel, c'est complètement bio comme prise de voix.
Avant, la rivière a séché. Avant, que tout soit emporté. Je veux retourner dans l'allée. Entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias. Respirer en entier pour une fois.
Dans les séquoias, c'était avec Pomme sur France Inter.
Alors, quelles sont les 5 œuvres musicales que vous préférez?
Côté
votre top des disques.
Club. On pourrait écouter chez moi dans un club.
Sur France Inter.
Marion Guilbeault, les nouveautés nouvelles.
Premier son de ces nouveautés nouvelles, c'est celui d'Ed Barrow. Nom anglophone pour une écriture en français, mais ce n'a pas été toujours le cas. Ed Barrow a connu une première vie sous influence Johnny Cash, comme un crooner réverbéré avec de l'harmonica, de l'auto-harpe et un premier album intime et sombre, The Black Tree. Et puis, il y a eu une absence discographique de 9 ans. 9 ans de photos, de collages, pour casser des automatismes d'écriture et laisser d'autres sons arriver, comme celui de la guitare plutôt que celui du piano. Et puis, il y a eu des complices comme Maud Lumeck, comme Messia, qui l'incitent à se fier et à se confier aux Français, à quitter le périmètre pop indé devenu trop étroit pour explorer d'autres territoires, plus mouvants, plus personnels. Et avec sa voix souple, sa pudeur, sa mélancolie qui rappelle celle de Françoise Hardy, il a écrit des chansons aussi sensibles que suggestives, il a réussi sa mue.
Et si j'étais parti sans vous, vous laissant seul, vous laissant tout, la nuit pendant votre sommeil, rien ne serait plus jamais pareil.
Ed Barrow, après tout, c'est un des titres de son nouvel EP, ça s'appelle Une vie entière, sortie prévue le 1er octobre. Lui, il navigue entre le français et l'anglais. Lui, c'est Nicolas Michaud, auteur, compositeur et producteur belge, exilé volontaire sur l'île de Samsø au Danemark où il vit avec sa famille. On avait adoré, Laurent, vous vous rappelez, son dernier album, Amour-Colère, et ses chansons à la croisée du rock anglo-saxon et de la chanson, de la rage et de l'éblouissement. Bonne nouvelle, Nicolas Michaud n'a pas tout dit puisqu'il publie Les Chutes, un nouvel album qui porte très mal son nom parce que tous les titres qui y figurent méritent notre attention. Des enregistrements domestiques qui témoignent d'une vie passée à l'écoute. La musique est quelque chose qui se passe, pas quelque chose que l'on fait, c'est lui qui le dit. On retrouve le son chaud, dense, profond de Nicolas Michaud, des versions alternatives donc, et 5 inédits, comme ce ténébreux et lancinant Amusement Park.
But now a four-lane highway, splits the village in two. We might work in the shade for a while. The tocsin is ringing. The orchid is singing, you need.
J'adore ce son de guitare, Amusement Park. Nicolas Michaud, c'est le premier extrait de son nouvel album, Les Chutes. C'est disponible le 1er octobre chez Capitan Records. Elle, Mélane, a choisi le français pour exprimer ce qui est souvent impossible à dire et toujours difficile à chanter, l'inceste. Mélane, on l'avait repérée au sein de Courtrajmé, c'était la seule fille du collectif. Elle a déjà enregistré 2 albums de pop chatoyante, elle est aussi styliste. Elle a collaboré avec M83, avec Oxmo Puccino. Et certaines de ses chansons de l'époque évoquaient déjà des blessures intimes. Mais aujourd'hui, Mélane lève un tabou avec Le Loup. C'est une chanson inspirée de son histoire personnelle. Le Loup, c'est son grand-père qui se permet des attouchements et que la petite Mélane de 7 ans va apprendre à éviter, à redouter le loup. Un loup qu'elle va malgré elle protégée des possibles représailles, muselée par la peur de faire exploser sa famille. Une famille, ou plutôt une tribu, parce que c'est la fille du peintre Kiki Picasso, c'est la sœur aussi du réalisateur Kim Chapiron. Et là où Mélane a énormément de talent, c'est qu'elle s'est mise à hauteur de la fragilité, celle éprouvée par la petite fille ou par la jeune femme qu'elle est aujourd'hui. Et cette chanson Interpellation, eh bien, elle l'a sublimée par sa mélodie, par sa voix, par son écriture, en chanson Consolation.
T'es dans cette pièce. Terré dans cette pièce où je me cache. Je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre sous, je ne suis pas libre. Et sur le qui-vive, toujours, et sur le qui-vive, toujours, ça me gâche. Papa, fallait papa, venir trop près de moi, maintenant je sais plus très bien quitter. Sous cet œil tout, 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 je le
C'est le titre de la chanson de Mélane, c'est aussi celui de son premier livre jeunesse aux éditions La Martinière. Elle a voulu ça comme un outil de prévention contre les violences sexuelles. C'est destiné aux enfants à partir de 4 ans, à leurs proches ainsi qu'aux professionnels de l'enfance. Et c'est un projet qui est accompagné par le collectif d'associations Prévenir et Protéger. Albin de la Simone, Vladimir Cosma, est-ce qu'il y a un titre dans ces nouveautés nouvelles qui a retenu votre attention?
Les trois donnent envie, mais évidemment... On sort de cette chanson, c'est quelque chose, quand même. Enfin, c'est vachement émouvant, très touchant. En plus, c'est très musical, je trouve. Et ce jeu de sonorité sur Lou, et oui, moi, ça me donne envie de la réécouter tout de suite quand on aura fini cette émission. D'ailleurs, est-ce qu'on peut arrêter maintenant l'émission?
Bien sûr, parce que bien sûr, c'est à vous dans quelques instants. Et comme ça, on se passerait de l'entretien. Voilà. On est hors de question.
Côté.
J'écoute uniquement les chansons.
Club.
Parce qu'elles disent la vérité.
Sur France Inter.
Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes.
Eh bien, on part avec vous. Vladimir Cosma, Albin de la Simone sont les membres de Côté Club ce soir. Albin de la Simone, qu'est-ce qu'il s'est passé? Un album instrumental, Happy End. Vous n'avez plus de voix, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le confinement vous a mis KO. Albums. Un album pour Pomme, un album pour Carla Bruni. On passe à l'instrumental.
Non, mais j'ai de la voix et j'ai hyper envie de chanter, mais je n'avais pas les mots, en fait. Ça m'a coupé la chic. Pendant le confinement, j'avais plus d'horizon, il y avait plus d'avenir, il y avait pas de futur. C'était d'un seul coup, je me suis rendu compte que sans ça, je n'avais plus les mots, j'avais plus d'inspiration pour écrire. C'est en train de revenir maintenant par le biais de la musique instrumentale. Finalement, ça me donne envie d'écrire à nouveau des mots, mais j'ai juste pas réussi à écrire de chansons et j'ai mis un an à me dire, mais en fait, ça doit pas me paralyser. Si j'arrive pas à écrire de chansons, j'ai qu'à faire de la musique instrumentale. Après tout, par contre, j'ai un genre de flux de musique permanent. Je suis tout le temps dans la musique, tout le temps en train de jouer du piano, tout le temps. Et puis, j'avais pas envie d'écouter de chansons non plus. J'avais pas envie d'écouter des gens comme moi qui chantent et qui racontent des trucs ça m'intéressait pas. J'avais envie d'écouter de la musique qui fait du bien, de la musique. J'écoutais de la musique brésilienne dont je comprenais pas les paroles. Donc finalement, j'ai mis longtemps à me rendre compte que je pouvais peut-être faire un disque comme j'aimerais bien écouter et libérer ça.
L'ambition de travailler un disque instrumental, est-ce que c'est juste lié au confinement ou par le passé vous en aviez déjà eu l'envie?
Ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais comme je vous le disais en début d'émission, j'ai mis longtemps à réussir à quitter le format jazz de la musique instrumentale. J'ai mis longtemps à comprendre que la musique instrumentale pouvait être autre chose que du jazz ou de la musique classique ou de la musique de film ou de l'électro, ou que je pouvais faire ma musique et la musique de mes chansons en instrumentale. C'est un chemin qui m'a pris vachement longtemps, mais j'en rêve depuis très longtemps.
Surtout qu'en fait, vous revenez donc aux origines, l'instrumental, puisque c'était ça à vos débuts, parce que vous êtes mis à chanter sur le tard, en fait.
À 30 ans.
Comment cette voix est apparue?
Elle est apparue par le texte. Donc je pensais que le jazz était ma liberté, la musique de ma liberté. Et en fait, c'est une musique qui est très codée et qui est très peu libre finalement. Le texte m'a permis vraiment de me rendre compte que là, j'avais une grande liberté. Je peux chanter comme je veux. Je peux être moi-même. Les modèles en chanson, ils sont pas aussi prégnants qu'en jazz, je trouve. Donc je me suis senti beaucoup plus libre et décomplexé. Et bon, après, j'ai mis quand même longtemps à vraiment me décomplexer, mais voilà.
Un album privé de voix, alors, mais pour celles et ceux qui voudraient quand même vous entendre, extrait du précédent album.
Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi ? Ne parlez jamais d'amour, le grand amour, ça n'existait pas.
La voix d'Albin de la Simone sur le grand amour pour le nouveau disque, il n'y aura pas de voix. On va écouter un premier extrait de ce nouvel album, Il pleut. Un mot sur cette composition, Albin de la Simone.
Un mot sur cette composition.
Vous vous souvenez quand elle est arrivée?
Oui, elle est arrivée en deux temps. J'ai enregistré donc tout le disque en trois jours, donc en allant
au studio Ferber,
dans des conditions très luxueuses, mais pour vraiment pouvoir être moi très libre. Donc j'étais entouré de tous mes instruments préférés
que vous avez dessinés,
que j'ai dessiné sur la pochette.
Très beau dessin dans le livret d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai.
J'étais un peu comme un enfant dans un parc avec tous ces instruments. Et j'avais enregistré un accompagnement qui était, je sais pas jouer de guitare, donc si je veux jouer de la guitare, j'arrive à jouer deux cordes à la fois, mais pas six. Donc je fais des parties de guitare de six cordes, mais en trois fois deux cordes. Et du coup, ça me permet de changer d'instrument entre temps. Donc j'ai fait deux cordes avec un banjo, deux cordes avec un ukulélé, et deux cordes avec une guitare. Ce qui me donne une guitare à trois sons différents.
Exactement.
Que je peux placer dans l'espace à différents endroits. J'avais fait ça très vite. Tout cet accompagnement, presque en improvisant, j'avais juste quelques accords, la suite d'accords, mais j'avais pas de mélodie, et c'est en rentrant à la maison que la mélodie m'est apparue vraiment, et je m'étais installé dans la chambre de ma fille, qui était partie en vacances, j'avais installé deux enceintes et l'ordinateur pour récupérer tout ce que j'avais enregistré, et pour trier un peu tout ça, et là j'ai eu la mélodie qui est arrivée, donc je suis allé à mon piano l'enregistrer, voilà, dans un deuxième temps.
Qu'est-ce qu'il y a sur les murs de la chambre de votre fille, Aya Nakamura?
Non, elle a 10 ans, il n'y a pas encore Aya Nakamura, c'est plus, il y a un peu de Roald Dahl, elle est très Harry Potter.
Donc un environnement littéraire alors?
Ouais, beaucoup de bouquins, ouais.
Thank you.
Pleu, extrait de Happy Hand, votre premier album instrumental, Albin de la Simone. Ça vous a plu, Vladimir Cosma?
Oui, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. C'est frais, c'est émouvant.
C'est tendre aussi.
C'est tendre. C'est bien orchestré. Enfin,
un sans faute.
Je suis très touché. Vous n'êtes sûrement pas pour rien dans l'inspiration de ce genre de musique pour moi, donc ça me touche beaucoup.
Ah ouais. Instrumental, je disais, pour autant, format de chanson.
Oui, ça, c'est vrai que je...
Vous auriez pu avoir des durées... Oui, vous auriez pu travailler sur des durées beaucoup plus importantes. Chaque fois, format de chanson.
Ben, je me libérerai peut-être de ça un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que je continue à entendre la musique sous forme de chanson.
Dans un format.
Il y a des couplets et des refrains. Oui. Ce qui est marrant, c'est que ce morceau-ci qu'on vient d'entendre m'inspire un texte. En ce moment, je suis en train d'écrire un texte et je suis en train
d'écrire ça va devenir les paroles de ces chansons.
Ouais.
De ces chansons sans paroles.
Parce que je n'ai jamais écrit de texte sur de la musique. J'ai jamais été capable de faire ça. J'écrivais toujours les textes sur la page blanche. Et aujourd'hui, je suis en panne de page blanche. La musique que j'ai composée d'abord va peut-être me ramener à la chanson et ça, c'est chouette.
Quels sont les instruments qui, dès le départ, vous sont apparus comme incontournables, puisqu'on parlait justement de l'enjeu de l'instrumental, c'est-à-dire travailler sur des instruments particuliers. En plus, vous en avez dessiné plein dans le livret, des
J'en possède
assez
plein.
Étranges.
Oui, mais je possède des instruments plus ou moins étranges, mais très inspirants. En fait, ça fait 30 ans que je joue de la musique professionnellement, disons. Et au fur et à mesure, je trouve un genre de sitar autrichien avec des mécaniques bizarres qui datent du début du XXe siècle. Hop, je l'achète. Je trouve un synthé de 74 que j'aime beaucoup. Je l'achète. Une guitare de 62. Et j'ai des choses qui sont très atypiques. Mais j'ai un piano, par exemple, qui s'appelle le Una Corda. C'est un piano qui n'a qu'une corde par note au lieu de trois. Et donc, il a un son très modeste et très très pur, puisque normalement trois cordes ça donne un son plus riche, parce que les trois sont jamais exactement accordés pareil. Là, le son du piano est beaucoup plus pur et particulier. Donc voilà, j'accumule des instruments qui m'inspirent et qui me font un vocabulaire. En fait, c'est comme si, puisqu'il se trouve que je dessine aussi, c'est comme avoir sa plume, ses feutres, ses peintures, ses couleurs, ses trucs. Voilà, moi j'ai mes instruments.
Vous connaissez ce piano Una Corda, Vladimir Cosma? Pas du tout.
Je ne connais pas, mais ça fait un peu le cymbalum, un peu.
Alors, le Una Corda, non, c'est vraiment un piano, c'est plus comme un piano forte, mais qui serait un piano droit, avec juste une corde.
Ouais,
mais il y a toute la mécanique d'un piano, un clavier, c'est vraiment un piano.
Non, je ne le connais pas.
Alors, il y a un instrument qui m'a marqué sur le titre La Falaise, très Ennio Morricone.
Ah oui.
Albin de la Simone, vous étiez en train d'expliquer à Vladimir Cosma ce que l'on entendait dans ce titre « La Falaise ».
Oui, c'est un instrument qui est... Donc, justement, je venais de vous en parler. C'est une sorte de sitar autrichien avec une mécanique qui fait que quand on appuie, ça rebondit. Il y a une petite touche en bois qui rebondit sur les cordes et qui fait « comme ça. Et ça s'appelle la mandolinette parce que ça fait un son comme de la mandoline. Et c'est un son très aigu, très brillant, qui fait comme une sorte d'éclat, en fait, d'éclat de lumière. Et je suis sûr que c'est un instrument qui fait, vous dites Ennio Morricone, mais ça fait très musique de film.
Exactement, bien sûr.
Pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment, on cherche l'instrument qui va apporter la lumière, rappeler un personnage, ou je sais pas. Pour moi, effectivement, ça évoque ça. Et le piano qui arrive en dessous, qui joue la mélodie grave, c'est des manières d'orchestrer un petit peu à l'envers, en fait, aussi. De mettre des instruments pas à l'endroit où il est censé être, et ça me plaît. Mais encore une fois, tout ça est un héritage de gens comme Vladimir Cosma.
Alors, il y a un autre titre qui joue sur un seul instrument, un piano, mais avec d'autres sons, c'est la chambre. Chez vous
qui marche
pièce qui marche avec des gros sabots.
Mais ça, c'était vraiment marrant. Donc, c'est au studio Ferber, qui est un magnifique studio, mais dont le parquet grince. Et ça, c'est une tradition.
À ce
point-là ? Ah ouais, ouais. Mais non, mais quand même, il grince quand on marche dessus.
Oui, j'imagine.
Et quand on enregistre, on marche pas sur le parquet, justement. Et là, j'avais enregistré cette espèce de petite fugue très simple. Et je trouvais qu'il manquait une dimension et j'avais envie de le contextualiser. Et dans tous les grands studios, parce que la pièce est très grande, il y a des micros au plafond pour enregistrer la pièce, pour enregistrer l'orchestre de loin, par exemple. Et là, j'ai demandé à ce qu'on ouvre les micros très fort et on m'a repassé le morceau dans mon casque et je me suis baladé dans le studio et j'ai marché dans le studio.
Ah, c'est vous qu'on entend.
C'est moi et surtout, c'est choisi. C'est que j'allais à tel endroit et je faisais... Hop, je faisais des pas, il y a des pas qui traversent la pièce, donc on est avec quelqu'un en fait. Voilà, mais c'est de la théâtralisation de musique.
Vous connaissez le studio Ferber, Vladimir Kosma?
Je le connais, mais je le connais pas bien, parce que...
Vous y avez travaillé?
J'ai travaillé quand le studio Davou n'était pas libre.
Et Davou est rasé, vous savez, j'habite à côté de Davou, ouais, et c'est rasé complètement, c'est un terrain vague.
Je sais.
Vous n'avez pas de home studio?
J'ai plus. J'ai aimé ça, et en fait, je me suis rendu compte que j'y entreposais du merdier, du bordel, et que je travaillais pas tant que ça dedans. Ça m'inspirait pas plus que ça. Ça coûte cher. Donc finalement, j'ai un très beau, cet instrument-là, le Una Corda, le piano que j'adore, dans mon salon, et je fais des maquettes avec un petit dictaphone, et je vais dans les vrais studios. C'est le luxe, mais voilà.
On se quitte tout de suite avec Hervé, révélation victoire de la musique, qui vit cette année, comme nous tous, un véritable rodéo.
J'porte un visage couleur béton. J'porte le blouson que t'aimais bien sûrement. J'porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'est plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, j'vaux pas mieux qu'un nom. J'vaux pas mieux que ça. J'veux pas mieux que toi. Moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand tes yeux me flinguent d'un verre au pas. Tout ce que j'attends c'est ton fou rire abstrait. J't'ai perdu, j'savais plus combien j'étais. Cette vie c'est pâle, c'est fade. Sans toi j'vaux pas mieux qu'un autre. J'vaux pas mieux que ça. J'veux pas mieux que toi.
Rodéo, c'est fini. Côté club aussi par la même occasion. Merci Vladimir Kosma, merci à vous.
Merci de m'avoir reçu et à la prochaine.
À la prochaine. Rendez-vous au Grand Rex mi-octobre pour une série de 3 concerts symphoniques les 15, 16 et 17. On peut aussi retrouver vos titres sur l'album Vladimir Kosma en concert. Alban Lacimone, merci à vous.
Ben, merci à vous.
6e album Happy End avec une tournée au TNB de Rennes en octobre du 12 au 21 avec les films fantômes.
Oui, c'est pas une tournée, je fais différentes choses, mais je ne tourne pas les morceaux instrumentaux de cet album. C'est différents projets, ouais.
Le 3 décembre, on vous retrouvera à Hasbrouck, le 8 au Élian, le 20 janvier à Boulogne-sur-Mer. Marion ?
Les sons des nouveautés nouvelles, Ed Barrow, Nicolas Michaud et Mélane sont à retrouver sur notre site.
Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain ?
Jusqu'à Grenadine, pas de soleil.
Dans la famille Voulzy, non, je prends pas le père, je voudrais le fils. Julien Voulzy sera notre invité demain avec à ses côtés Julia, Jean-Baptiste et Romane. Et pour vous Marion ?
Eh bien, je déroulerai le fil de l'actualité musicale.
Merci à toute l'équipe du soir, Stéphane Le Guenec à la réalisation, Julien Dumont ce soir à la technique, à la programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rouzic. Bien sûr, Valentine Chedebois toujours aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.